14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Je lance un appel à tout le monde, tous ceux qui peuvent nous aider, c'est vraiment un appel au secours. Et puis, ben, voilà, c'est le but, c'est de retrouver Fiona, c'est tout. Donc, on a vraiment besoin d'aide, quoi. N'importe qui voit Fiona, n'importe qui a Fiona, ben, qui nous la ramène.
Bonjour. Au printemps 2013, la France entière découvrait les pleurs de Cécile Bourgeon. Une mère de famille dans le malheur qui recherchait désespérément sa petite fille de 5 ans, Fiona. Comment ne pas la prendre en pitié ? 4 mois plus tard, elle devenait pourtant la femme la plus détestée du pays. Soupçonnée avec son compagnon d'avoir ôté la vie à Fiona, apparue au fil des investigations comme une enfant martyre. Dès lors, l'enquête va plonger dans les méandres de ce couple instable où chacun des deux acteurs se renvoie la responsabilité de la mort de la petite fille et où personne ne peut dire ou ne veut dire où se trouve le corps de l'enfant. De longues auditions, puis les 4 procès qui vont suivre ne vont pas suffire à faire surgir une vérité tangible. Après plus de 10 ans de prison, la mère de famille veut sortir de prison. Sera-t-elle libérée un jour avec ses secrets ? Question posée aujourd'hui à nos invités.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Dans l'heure du crime, aujourd'hui, nous revenons sur la disparition et la mort de la petite Fiona, 5 ans, au printemps 2013, à Clermont-Ferrand. L'enfant s'est brutalement évaporé dans un parc de la ville. Accident ou enlèvement ? La maman, Cécile Bourgeon, s'interroge, bouleversée. Dimanche 12 mai 2013, en tout début de soirée, une jeune mère de famille aux cheveux blonds mi-longs, mouillés par la pluie fine qui tombe sur Clermont-Ferrand, pousse la porte du commissariat de la ville. Sa petite fille de 2 ans et demi, Eva, dort dans une poussette. Mais c'est pour sa grande sœur, Fiona, 5 ans, que la maman vient demander de l'aide. Cécile Bourgeon, 25 ans, raconte qu'aux alentours de 17h, elle s'est rendue avec ses filles dans le très grand parc Montjuset. Il ne faisait pas beau, mais elle voulait que tout le monde prenne l'air. Elle s'est assise sur un banc, puis elle a fini par s'assoupir sur un coin de pelouse. Elle dit être très fatiguée parce qu'elle est enceinte d'un 3e enfant. Elle s'est endormie un quart d'heure, 20 minutes peut-être. Quand elle s'est réveillée, la poussette d'Eva n'avait pas bougé, mais elle n'a plus vu Fiona. Elle l'a appelée. A couru partout. J'étais complètement paniqué, je me souviens même plus d'avoir pleuré. Je n'ai pas eu le temps de laisser paraître mes émotions. J'ai compris que quelque chose de grave était arrivé, racontera Cécile Bourgeon à Paris Match. Aux policiers, elle explique avoir emprunté un portable à un des promeneurs pour appeler son compagnon Berkane Maclouf. Celui-ci est venu tout de suite à Montjuset, il a cherché Fiona avec des joggeurs. Après 40 minutes, la maman a filé au commissariat. « Vous avez bien fait », lui a-t-on répondu. Lundi 13 mai, le parc Montjuset est ratissé. Une 100aine de militaires, mais aussi des pompiers, des habitants, des policiers participent aux recherches. 2 hélicoptères équipés de caméras thermiques survolent la zone. 4 chiens pisteurs sont sur place, mais aucune trace de la petite fille. Une perquisition conduite dans la chambre de Fiona ne donne rien. Cécile Bourgeon apparaît à la télé, sous le choc. Elle pleure beaucoup, donne des interviews sur le pas de sa porte, multiplie les appels au secours. Berkane Maclouf apparaît beaucoup plus tendu. Il demande qu'on les laisse tranquilles. Vendredi 17 mai, 5 jours après la disparition, Cécile Bourgeon revient au parc Montjuset. Les enquêteurs et le procureur de Clermont-Ferrand l'écoutent. « Je sais exactement où j'étais, je vais montrer tout ce que l'on a fait. Si je suis dans cet état, c'est à force de tout ressasser. C'est trop dur de toujours tout revivre », déclare-t-elle au journal La Montagne. La maman se prête sans la moindre difficulté à la reconstitution, répond aux questions. Le procureur indique alors que la parole de la jeune femme ne peut pas être mise en cause, selon lui. Elle a le comportement d'une personne paniquée, très affectée par l'absence de sa petite fille. Au fil des semaines, les policiers ont des doutes sur le couple Bourgeon-Maclouf. La jeune femme ne tarit pas d'éloges sur son compagnon qu'elle décrit comme gentil. « Nous formons une vraie famille », affirme-t-elle. Il apparaît pourtant que cet homme est connu pour être un toxicomane. Cécile consommerait aussi des stupéfiants. L'étude de l'ordinateur portable du couple montre des recherches sur les disparitions d'enfants, la téléphonie, témoigne de déplacements inexpliqués. Et puis, lors de la disparition, Cécile a dit qu'elle portait un legging blanc. Elle assure s'être endormie sur un banc et dans l'herbe, mais le legging était immaculé quand elle a prévenu la police. Aucune trace de salissure détectée sur le vêtement. Et Cécile Bourgeon, tout comme son compagnon, vont bien évidemment être interpellés, cette fois placés en garde à vue, deux suspects avec à la clé la perspective d'avoir affaire à un couple infanticide. Une vérité des plus choquantes, car Fiona était peut-être battue, c'était peut-être une enfant martyre. On est là au tout début de l'affaire, au premier pas de la disparition. On va voir ce qui va se passer dans la suite de l'heure du crime. Bonjour Vincent Vadinghem.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes grand reporter à BFM TV, chroniqueur judiciaire. Le fait divers n'a pas de secret pour vous. Vous enquêtez sur beaucoup d'histoires qui sont actuellement en cours. Et puis vous êtes auteur de ce livre, Les défendre tous, qui a été publié il y a seulement quelques jours aux éditions du Rocher. Les défendre tous, vous parlez évidemment des avocats. Hein, vous avez fait le tour des avocats de France et notamment des avocats dans cette histoire, Cécile Bourgeon et de la petite Fiona. Alors on est là au tout début de cette affaire. Les avocats, ils sont pas encore en piste parce que les policiers travaillent. Ils ont des doutes sur ce couple qui apparaît un petit peu lointain. Mais comment imaginer le pire? C'est toujours très compliqué. Cécile Bourgeon, une petite femme frêle. Alors elle, on la croit tout de suite. Il y a pas de souci.
Au début, on la croit immédiatement. On remet pas vraiment en cause sa version parce que ça apparaît crédible. Elle est paniquée dans ce parc. Elle fait appel aux pompiers. Elle appelle son compagnon. Et puis on n'a pas vraiment de raison de mettre en doute sa parole. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé.
C'est facile après coup.
C'est facile après coup de dire, mais en fait, on avait compris dès le départ, mais même l'un de ses avocats, Renaud Portejoie, dit non, il faut arrêter de croire qu'on avait compris dès le départ. Au début, elle a berné tout le monde, elle a vraiment berné tout le monde. Il faut se souvenir que ça a duré comme ça des semaines et des semaines où on l'a cru.
Ça, c'est sur l'avocat qui le dit. C'est-à-dire, lui, il dit elle a truqué, c'est ça, elle a menti.
Non, il dit elle a berné tout le monde, c'est-à-dire que personne ne pouvait percevoir finalement qu'elle mentait. Tout le monde l'a cru et elle apparaît vraiment comme crédible à ce moment-là.
Alors, il y a une première faille, évidemment, les policiers ils regardent qui est Cécile Bourgeon et qui est ce compagnon, Berkane Maclouf. C'est qui ces deux personnages? On va les dire, ils sont toxicomanes, ils vivent à Clermont-Ferrand.
On peut dire qu'ils sont toxicomanes au dernier degré, c'est-à-dire que lors du procès, on a fait étalage de tous les produits qu'ils prenaient à l'époque des faits. On était là quasiment dans un labo de chimie. On prenait de la kétamine, de l'héroïne, de la cocaïne, du cannabis, des produits de substitution. Ils avaient chez eux, dans leur appartement, dans un placard, des plants de cannabis qu'ils faisaient pousser. Et au cours de l'enquête, on a découvert que Cécile Bourgeon, qui a deux enfants, donc la petite Fiona et Eva, il les emmenait par moments dans un squat pour prendre des drogues. Il mettait les enfants devant une télé pour aller dans la pièce d'à côté s'injecter de l'héroïne.
On va même se poser d'ailleurs des questions sur ce que vous racontez, parce que c'est tout à fait effrayant, mais vous posez bien le décor, et il est très important le décor dans cette affaire, parce qu'il explique sans doute beaucoup de choses. On va se demander pourquoi les services sociaux ne sont pas intéressés finalement à ce couple. Ça va être une question tout
de
suite.
Ça va être une question assez rapide qu'on va se poser. Pourquoi les services sociaux? Pourquoi l'éducation nationale aussi? Est-ce que les enseignants qui avaient la petite Fiona à l'école le matin n'ont rien remarqué?
Bien sûr.
Même les jours précédant sa mort.
Parce qu'elle pouvait porter parfois des traces de coups. C'est en tout cas ce que va dire son papa, Nicolas Chafoulet, aux enquêteurs. Bonjour maître Charles Fribourg.
Bonjour monsieur Richard.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime et d'avoir accepté notre invitation. Je parlais justement de Nicolas Chafoulet, le papa des petites filles et notamment de Fiona. C'est le dernier compagnon de Cécile Bourgeon. Vous êtes son avocat dans cette histoire. Alors il y a Cécile Bourgeon qui raconte cette disparition dans le parc. Est-ce que son ancien compagnon, Nicolas Chafoulet, y croit à cette histoire ou bien est-ce qu'il se pose des questions?
Alors il va croire à sa version, hein, bien qu'il soit un peu accusé et qu'il ait été convoqué en tout cas par les services de police parce qu'elle l'avait dénoncé quand même lors de la disparition en disant bon, elle était peut-être kidnappée mais allez voir quand même le père, il a assez mal vécu la séparation donc allez l'interroger, allez faites quelque chose. Alors oui, Nicolas Chafoulet, il va croire à l'enlèvement. Il va aller au parc Montjuïcé, jusque tard dans la nuit, à arpenter le parc, avec d'autres personnes, pour essayer de retrouver Fiona. Mmh.
Alors on en parlait à l'instant avec Vincent Vadinghem. Est-ce que Nicolas Chafoulet, lui, il a des doutes sur l'éducation de ses filles, Fiona, et puis la toute petite Eva, par Cécile Bourgeon?
Vous savez, hein, l'événement qui a été très fort dans le cadre de ce dossier, c'est 6 mois avant la disparition, entre guillemets, de Fiona.
Oui.
6 mois avant, Nicolas Chafoulé, il donne le bain à sa fille et il dit « Écoute, papa, Berkane, il me fait mal. » Et c'est à partir de là où Nicolas Chafoulé commence à questionner Fiona et puis il va vouloir interroger Berkane Makhlouf. Donc, avant cet épisode, il a pas tellement de doutes. Il s'occupe encore de ses filles. Il y a pas de doute encore. Mmh. Par contre, après, pendant cette période de 6 mois, il va pas les revoir. Oui. Il ne reverra jamais sa fille. Et il va essayer. Il va appeler régulièrement. Il va essayer de les avoir. Il va les avoir un peu au téléphone. Et puis, ça va se distendre. Et puis, il les aura plus du tout. Et puis, il pourra plus du tout leur parler jusqu'à ce qu'il apprenne cette disparition.
Vincent Van Dinghem, on entend ce que dit Maître Fribourg et c'est intéressant parce que lui aussi a vécu de l'intérieur ce dossier à travers son client Nicolas Chafoulé. Alors dans Les Défendre Tous, là, le bouquin que vous sortez avec une préface, d'ailleurs je l'ai pas dit, de François Molins, ancien procureur de Paris, vous racontez l'histoire du legging blanc. Ça m'a frappé parce que j'ignorais ce détail. Et effectivement, elle vient signaler la disparition. Elle porte ce legging blanc. Il n'est pas du tout ni maculé de terre, ni taché, alors qu'elle dit qu'elle s'est endormie. Ça va faire tiquer les enquêteurs?
A posteriori, oui, ils vont se dire, mais finalement, ça, est-ce que c'est pas aussi un indice? Parce que ce jour-là, elle dit, je me suis endormie, on est dans le parc Montjuset, elle est enceinte, elle dit, j'étais fatiguée, et je me suis assoupie peut-être un quart d'heure, 20 minutes, dans l'herbe, alors que les enfants
jouaient autour. C'est mouillé en plus ce jour-là.
Et ce jour-là, l'herbe est humide, et elle porte un legging blanc qui est immaculé. Et a posteriori, ça va être repris notamment par le parquet dans son réquisitoire en disant « Déjà ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, c'est quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'elle dit. Si elle avait vraiment fait cette sieste dans l'herbe, il y aurait des traces sur son legging blanc. »
Et puis ensuite, en deux mots, il va y avoir la téléphonie, etc. Les policiers vont travailler là-dessus. Hein.
Exactement, parce que entre le moment où elle signale la disparition et le placement en garde à vue, ils vont s'écouler de longs mois. Berkane Makhlouf et Cécile Bourgeon vont quitter l'Auvergne pour rejoindre Perpignan, mais ils vont évidemment être placés sur écoute, être surveillés, et les enquêteurs vont commencer à avoir des doutes.
4 mois plus tard, le couple est interpellé à Perpignan. Mardi 24 septembre 2013, Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf sont interpellés à Perpignan. Ils sont venus s'installer dans cette ville peu après la disparition de Fiona. 3 semaines auparavant, Cécile Bourgeon a mis au monde un petit garçon prénommé Bilal. Elle est la première à être placée en garde à vue. Les policiers lui soumettent les incohérences de son emploi du temps et certaines contradictions dans ses déclarations. Lors de sa 4e audition, la mère, manifestement épuisée, nerveuse, craque. Fiona n'a pas fugué et n'a pas été enlevée. Cécile Bourgeon raconte que le décès de sa fille se serait déroulé dans la nuit du 10 au 11 mai, un jour avant le signalement de la disparition. Elle affirme que ce soir-là, son compagnon a frappé la petite fille. Elle avait un gros bleu sur le front, elle a vomi. Le lendemain matin, le couple l'a retrouvée morte dans le lit. Berkane Makhlouf, confronté à ses déclarations, finit par reconnaître un accident domestique. Fiona se serait étouffée dans son vomi. Mais il refuse de passer pour celui qui a frappé l'enfant. Il reconnaît des coups, mais ne peut pas dire qui les a donnés. La mère indique qu'elle a voulu appeler les secours, mais que son compagnon l'en a dissuadée. Interrogée sur la dissimulation du corps, Cécile décrit un scénario insoutenable. Elle indique que sa fille dénudée a été glissée dans un sac. La dépouille a été chargée dans le coffre de la voiture. Le 12 mai, tôt le matin, Berkane, Cécile et la petite Eva ont roulé jusque dans une forêt de la région. Elle est incapable de se souvenir laquelle. Elle se rappelle uniquement que Berkane a fait un trou et a cassé le manche de sa pelle en creusant. Le compagnon, lui non plus, ne peut pas dire où se trouve le corps. Ils étaient sous l'effet de la drogue, kétamine, héroïne, Subutex. Quand tout cela s'est déroulé, ma cliente est soulagée. Elle ne pouvait plus supporter de vivre dans des mensonges répétés. C'est un peu comme une libération, indique Maître Gilles-Jean Portejoie, avocat de la maman. 2 semaines après ses aveux, Cécile Bourgeon les confirme devant les juges de Clermont-Ferrand. À son avocat, elle jure qu'elle va tout faire pour aider à retrouver le corps. Des mois plus tard, elle proposera d'être soumise à une séance d'hypnose afin de retrouver ses souvenirs. Son ancien compagnon Nicolas Chafoulé, le papa biologique de Fiona et d'Eva, indique ne pas croire à la version de l'accident. Seul le corps retrouvé pourrait peut-être indiquer ce qui s'est passé.
Et c'est un mystère, car les deux acteurs semblent enfermés dans leur névrose. Ils ne racontent pas exactement ce qui a pu se passer. Ils en tournent en rond dans cette histoire. D'autant plus que leur mémoire serait fragilisée par des excès de drogue, elle serait défaillante. Est-ce qu'il s'agit de mensonges destinés à occulter leurs responsabilités ? C'est possible. C'est une question qui va émerger lors du premier procès. On va en parler dans un moment, dans la suite de l'heure du crime. Alors, on retrouve dans cette heure du crime Vincent Vantinghem, grand reporter à BFM TV et auteur du livre « Les défendre tous », qui est paru il y a quelques jours aux éditions du Rocher. Les défendre tous, ce sont les paroles des avocats, et dans ce livre il y a un chapitre consacré effectivement à cet appel Fiona, avec les avocats de Cécile Bourgeon notamment, qui vous ont donné leur confidence. Alors vous parlez beaucoup de cette affaire dans cet ouvrage. Racontez-nous un petit peu cette garde à vue de Cécile Bourgeon. Finalement, pourquoi elle passe aux aveux?
Elle finit par passer aux aveux parce que on sent que nerveusement, en fait, elle n'en peut plus. On est à la quatrième audition lors de sa garde à vue.
On est à plus de 24 heures.
On est déjà au-delà de la prolongation de la garde à vue. Elle a face à elle quelqu'un qui est un grand flic, Christophe Molmy, qui est descendu de Paris pour l'interroger et qui lui met sur la table toutes les contradictions. Et elle est vraiment tellement sur un fil nerveusement que cette garde à vue, qui a été filmée comme la procédure le permet, sur les images, on la voit, elle rit nerveusement, ensuite elle se met à pleurer, elle tire frénétiquement sur sa cigarette, elle tutoie Christophe Molmy qui est en face d'elle, et elle se laisse un peu embarquer et finit par dire « oui, en fait, Fiona, elle n'a pas disparu, Fiona, elle est morte. » Et c'est vraiment là que bascule cette affaire au bout de cette quatrième audition.
Et vous racontez quelque chose aussi qui est étonnant, c'est que Christophe Molmy, qui est un grand flic, vous l'avez dit, c'est, à l'époque c'est le patron de l'OCRVP, on recherche des personnes disparues, etc. Il est chargé de l'enquête et en personne, il vient faire cet interrogatoire, parce que sans doute a-t-il senti qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et vous dites que Christophe Molmy, qui en a vu d'autres, là il est choqué par ce qu'il entend.
Exactement, il est choqué parce qu'il se dit comment en sont-ils arrivés là ? Pourquoi ont-ils fait ça ? Et surtout, comment sont-ils parvenus à mentir à la France entière pendant 4 mois ? Et il y a ce moment marquant où il obtient donc les aveux de Cécile Bourgeon. Il la renvoie dans sa cellule de garde à vue et il dit « on va s'occuper de Berkane Maclouf puisqu'il faut confirmer les premiers aveux, il faut que lui aussi passe aux aveux ». Et c'est un peu comme dans les films, il le fait venir et lui dit « j'ai qu'une question à poser ». Je sais que tu as cassé le manche de la pelle lorsque tu as enterré Fiona, tu confirmes. C'est la seule question qu'il lui pose au début pour le faire confirmer cette histoire.
Et Berkane Maclouf, il va expliquer, sans expliquer d'ailleurs, mais il va dire des coups.
Ils vont tous les deux confirmer la mort de la petite fille et à partir de là, ils vont fournir des explications diverses et variées pour expliquer comment elle est morte sans jamais dire au départ qu'elle a été victime de coups. Elle est tombée des escaliers, elle est tombée de trottinette, elle a peut-être avalé une boulette de cannabis ou de la drogue. Voilà, on va être sur diverses explications. Mais le fait est que là, on découvre vraiment que cette petite fille que tout le monde a cherchée pendant des semaines et des semaines est bien morte.
Et que sans doute, elle était battue, elle était martyrisée. C'est en tout cas ce qui ressort de ces premières auditions et de ce climat qui régnait dans cette maison de Clermont-Ferrand. On retrouve dans cette heure du crime notre deuxième invité, c'est Maître Charles Fribourg, avocat à Clermont-Ferrand. Et vous êtes dans cette affaire, Maître Fribourg, l'avocat de Nicolas Chafoulé. C'était le premier compagnon de Cécile Bourgeon. Alors, dites-nous un mot sur ce couple, ces deux intervenants. Alors, d'abord, Berkane Maclouf, lui, il était connu pour des faits de violence avant d'être interpellé dans cette histoire ?
Alors, on va effectivement trouver une personnalité inquiétante, de Berkane Maclouf. Les mains parlent plus vite que la bouche. Il dégaine, il frappe, il est connu, oui, c'est un toxico. Il a un passif de violence. Passif de violence. Il y a eu des faits également de viol ou des suspicions de viol par rapport à deux de ses précédentes compagnes. Oui, il a un profil très inquiétant, Berkane Maclouf.
Et un mot, Charles Fribourg, un mot sur Cécile Bourgeon. Avant de se séparer de son premier compagnon, Nicolas Chafoulé, votre client, est-ce qu'elle était violente, cette femme ?
Il faut avoir une lecture loyale du dossier. Il n'y avait pas de violence sur ces deux filles. Les violences sur les deux filles, elles sont arrivées après. Je vous rappelle quand même que si la garde à vue n'intervient pas au mois de septembre à Perpignan, la deuxième fille, elle elle fait la même trajectoire. Hein. On repart sur un deuxième drame.
C'est effrayant, Vincent Van Dingham, ce que dit Charles Fribourg, parce qu'il dit que cette femme, elle portait une violence en elle, même si elle ne l'avait pas exprimée jusque-là. Alors, évidemment, vous avez interviewé les avocats pour votre bouquin de Cécile Bourgeon. Elle va leur dire, tout de suite, elle va dire qu'elle va tout faire pour qu'on retrouve le corps. Elle paraît sincère, a priori, même si les faits ne sont pas tout à fait ceux-là.
Oui, effectivement, dès le départ, elle met en avant le fait qu'elle veut absolument qu'on retrouve le corps de sa fille, qu'il faut lui offrir une sépulture digne. Et donc, de la même manière, on va croire un peu à cette version en disant, voilà, elle fait ce qu'il faut. Elle va même demander à la justice d'être hypnotisée. C'est un peu son obsession à ce moment-là de l'affaire. Je veux être hypnotisée. Peut-être que je vais réussir à retrouver l'endroit où on l'a enterrée. Je sais que j'ai mis une croix avec deux bouts de bois sur la terre. Elle va même donner quelques indications. Il y avait une route qui montait. Sur le côté, il y avait une petite maison. C'est là qu'on a trouvé l'appel. Il y a eu de multiples recherches. On n'a jamais retrouvé l'endroit. Il y a eu des fouilles, on n'a jamais retrouvé le corps de Fiona, mais à ce moment-là, tout le monde pense qu'on doit la retrouver, qu'il faut la retrouver. Même les avocats de Cécile Bourgeon, parce qu'ils se disent ça va être bien pour le dossier, déjà ça va être bien pour l'opinion publique, et puis surtout on va pouvoir comprendre de quoi cette fillette est morte, et on va peut-être pouvoir disculper Cécile Bourgeon, parce que la thèse à ce moment-là, c'est que Berkane Maclouf est l'auteur des coups sur sa fillette.
Mais est-ce qu'elle a beaucoup pleuré? On l'a vu au début, vous me l'avez bien raconté, au début tout le monde la croit, cette maman qui a perdu sa fille, qui la cherche partout. Est-ce que finalement elle continue pas à raconter n'importe quoi?
C'est aussi la... En tout cas, du côté des enquêteurs, c'est vraiment la question qui se pose en se disant « Elle nous a berné pendant 3 mois. » On a vu sur les écoutes qu'on avait qu'il y avait des doutes très rapidement. D'ailleurs, il faut expliquer pourquoi elle n'est pas placée en garde à vue plus tôt. C'est parce qu'elle est enceinte de son 3e enfant à ce moment-là, qu'elle est sur le point d'accoucher. Les enquêteurs décident de la placer sous surveillance le temps qu'elle accouche et ensuite la place en garde à vue. Mais évidemment, chacune de ces déclarations, après 3 mois de mensonges à la France entière, est sujet à caution.
Charles Fribourg, encore une question. On a l'impression que ce couple floute un peu les informations sur la nuit du meurtre. Pourquoi ils n'expliquent pas finalement ce qui s'est réellement passé ?
Ils ne peuvent pas donner la vérité parce qu'elle est indicible. C'est leur pacte, d'ailleurs. Ils ne peuvent pas expliquer comment ils ont tué Fiona et surtout comment ils se sont débarrassés et comment ils ont jeté son corps. C'est ça, leur pacte. Ils nous ont baladés à Eda ou dans la région d'Eda, dans les volcans, dans nos magnifiques volcans, pour expliquer qu'ils avaient, au bout d'un chemin... Après avoir repéré un chemin à gauche, à droite, une pelle qui traînait dans le coin, ils ont donné un semblant de sépulture tout en indiquant qu'ils ont jeté le corps à même le sol, sans aucun drap, sans rien. Voilà, ils nous ont baladés du début jusqu'à la fin sur les conditions de la mort et sur le lieu où Fiona a été jetée.
Après plus de 3 ans d'enquête, le couple va comparaître en procès, le premier d'une longue série.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Elle dit qu'effectivement, des coups ont été portés par son compagnon. Elle ne dit pas que ces coups étaient d'une grande violence et qu'à la suite de ces coups, effectivement, Fiona a plongé pour ne jamais se relever.
Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur la disparition et la mort de la petite Fiona, 5 ans, en 2013, à Clermont-Ferrand. Sa mère et son compagnon, tous deux toxicomanes, ont décrit un accident. Le corps reste introuvable, le décès inexpliqué. 3 ans plus tard, ouverture du premier procès. Lundi 14 novembre 2016, Cécile Bourgeon, 28 ans, et Berkane Maclouf sont devant la cour d'assises du Puy de Dôme à Riom. La mère de Fiona, cheveux blonds platine et méconnaissable, elle dit peser désormais 106 kilos alors qu'elle en faisait 55 au moment de la disparition. Elle met cette transformation sur le compte du stress. Tout de suite interrogée sur les mauvais traitements infligés à Fiona, elle répond « Je l'ai jamais frappée. Pareil pour moi, renchérit Berkane Maclouf, les deux accusés. Non pas un regard l'un pour l'autre, mais impossible de savoir s'ils se détestent vraiment ou s'ils sont encore complices. La cour rappelle qu'après la dernière reconstitution, alors qu'ils s'accusaient mutuellement, les deux ex-amants avaient fini par tomber dans les bras l'un de l'autre. Maclouf a le plus mauvais rôle, présenté comme violent, manipulateur, paranoïaque, accusé directement des coups mortels. Il s'en défend. Pour moi, les enfants, c'est sacré, je n'ai jamais levé la main sur des enfants, répète-t-il. Une ancienne compagne qui raconte avoir vécu l'enfer avec lui le rejoint pourtant sur ce point. Il est incapable de faire sciemment du mal à un enfant.
Cécile Bourgeon affronte les parties civiles avec véhémence. Elle s'en prend à maître Marie Grimaud, avocate de l'association Innocence en danger, laquelle l'interroge. « Vous pensez avoir d'autres enfants ?»« Oui, c'est mon rêve », répond l'accusé. Et là, je perds mon temps en prison. 11 jours de procès au cours desquels ni Bourgeon ni Maclouf ne disent ce qui est vraiment arrivé à Fiona. L'appel de l'ancien compagnon Nicolas Chafoulé qui crie « Je veux savoir où est le corps de ma fille ?» Cet appel ne reçoit aucun écho. Cécile Bourgeon est finalement acquittée du crime. Elle écope de 5 ans pour non-dénonciation de mauvais traitement. 20 ans pour Berkane Maclouf. Vincent Vantengem, qui est l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, journaliste, grand reporter à BFM TV et auteur du livre « Les défendre tous » qui est paru il y a quelques jours aux éditions du Rocher, livre dans lequel vous consacrez un long chapitre à l'affaire Fiona. Il y a ce procès, vous le décrivez dans votre ouvrage, elle est très bouillonnante, Cécile Bourgeon. On aurait pu penser qu'on allait trouver une femme discrète, timide, peut-être en recul, c'est pas du tout. Elle est très agressive même.
Elle est vraiment agressive, bouillonnante, c'est le bon terme, et elle exacerbe les passions dans ce prétoire de la cour d'assises de Rayon, notamment par ses déclarations. Vous l'avez dit, elle est interrogée. On est en train de tenter de trouver la vérité sur la mort de la petite Fiona, et elle annonce à tout le monde, en fait, je suis en train de perdre mon temps en prison parce que je veux d'autres enfants.
C'est donc complètement fou.
Complètement décalé par rapport à la souffrance ressentie par le père de la petite Fiona, et elle va énerver tout le monde. Et en dépit de son attitude qui est cassante, à l'inverse de Berkane Maclouf qui paraît lui complètement figé dans sa toxicomanie et les traitements de substitution, en dépit donc de son côté bouillonnant, eh bien Cécile Bourgeon va être acquittée du crime, condamnée à 5 ans de prison dans une ambiance d'un autre temps, avec une foule qui gronde aux portes du palais de justice quand le verdict est rendu.
Et ce qui est incompréhensible, faut bien le dire.
Incompréhensible à ce moment-là, vraiment incompréhensible. Alors il y a eu une très belle et efficace plaidoirie des avocats de Cécile Bourgeon qui ont recentré les débats en disant on n'a pas d'aveu, on n'a pas de corps, on n'a pas de scène de crime, et qui finalement ont réussi à obtenir quelque chose pour Cécile Bourgeon. Mais Berkane Maclouf, lui, a été condamné pour avoir donné les coups à Fiona, alors même qu'il n'a jamais reconnu les faits lors du procès.
Maître Charles Fribourg, votre client Nicolas Chafoulé, comment est-ce qu'il a vécu ce premier procès ?
Le premier procès était le plus éprouvant, puisqu'on était dans un public qui était composé de gens qui avaient une haine incroyable vis-à-vis de Cécile Bourgeon et qui intervenaient régulièrement. Ça a été un poids pour nous infernal. Un peloton d'exécution, ce n'était pas une salle d'assises, c'était un peloton d'exécution. À crier à mort, à jamais permettre à la défense, effectivement, de pouvoir s'exprimer. Donc c'était très 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 compliqué.
Comment est-ce qu'on peut expliquer, Maître Fribourg, vous connaissez bien ce dossier, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on arrive à un tel niveau de violence ?
Nicolas Chafoulé, il s'occupait de Fiona tout le temps. Quand il était ensemble avec Cécile Bourgeon, c'est lui qui faisait le papa poule, hein. C'est lui qui faisait à manger, c'est lui qui essayait de l'habiller, c'est lui qui essayait de la coiffer tant bien que mal, c'est lui qui l'amenait à l'école, il assurait tout. À partir du moment où Nicolas Chafoulé a disparu, plus personne ne s'est occupé de Fiona, plus personne ne s'est occupé de la petite sœur. Elles étaient livrées à elles-mêmes. On a des éléments dans le dossier où c'est la voisine qui les entend pleurer et que Fiona, à 5 ans et demi, elle avait un rôle de mère par rapport à sa petite sœur. Et elle devait réclamer son père et qu'elle devait agacer Berkane Maclouf qui supportait pas qu'elle ne l'appelle pas papa. Elle devait insupporter sa mère qui ne s'était jamais occupée de quelque enfant que ce soit, qui était incapable de s'en occuper. Et donc on rentre dans ce huis clos, on rentre dans ces tensions. Voilà, puis le drame arrive, quoi.
Qui manipule qui dans ce couple ?
Numéro un, c'est Cécile Bourgeon. Et c'est un personnage assez incroyable. On m'avait soufflé, j'avais trouvé que l'idée était assez juste, un GPS, c'est-à-dire que chaque fois qu'elle perd sa route, elle recalcule son chemin pour mieux endormir tout le monde. Elle a une intelligence remarquable, elle a quand même su manipuler la France entière, elle était quand même assez forte, et elle a failli faire croire qu'elle n'était pour rien dans le cadre de cette mort atroce, qu'elle était victime de Berkane Maclouf, et la tête et les jambes. Hein. Berkane Maclouf, ça devait être effectivement les bras. Cécile Bourgeon, ça a été également les bras, mais c'était également la tête.
Alors, ça serait, d'après ce que dit Maître Fribourg, ça serait Cécile Bourgeon qui mènerait le jeu. Le fait est, c'est que on ne sait pas ce qu'est devenue la petite fille. Il y a des heures de procès, pourtant.
Il y a des journées entières de procès, et on ne sait pas, on n'a réponse à aucune question. Quand est-elle vraiment morte? Parce qu'ils disent qu'elle est morte dans la nuit de samedi à dimanche, mais rien ne l'indique. On sait que des témoins l'ont vue, notamment avec ce coup au visage quelques jours auparavant. Qui a porté les coups? Si elle a été victime de coups, on ne le sait pas non plus. Et quand est-ce qu'elle a vraiment été enterrée en bordure d'une forêt? C'est l'explication fournie par les deux accusés, mais ça aussi, aucune certitude, on n'a jamais retrouvé le corps. Et il y a notamment un témoin qui vient nous indiquer, on a vu aussi la veille Berkane Makhlouf sortir avec un gros sac pour aller vers les poubelles. Est-ce que c'est pas aussi une autre piste d'explication?
Verdict contesté, le parquet fait appel, nouveau procès. Vendredi 13 octobre 2017, le deuxième procès. Cécile Bourgeon, Berkane Makhlouf tourne court, renvoyé pour des questions de procédure. Quatre mois plus tard, les accusés reviennent devant la cour d'assises de la Haute-Loire, au Puy-en-Velay. Ils n'ont pas changé de registre. Makhlouf est perdu dans une espèce de brouillard et la mère de Fiona reste dans l'invective. Elle maintient que c'est son ex-compagnon qui a frappé sa fille, lequel dément. Mais cette fois, ce jeu ne trouble ni l'accusation ni les jurés. Ils ne font pas de différence entre la maman et le compagnon, tous deux condamnés à 20 ans de prison. Un an plus tard, le verdict est cassé pour vice de forme, Cécile Bourgeon est libérée, elle tombe enceinte de son quatrième enfant. Mardi 1er décembre 2020, après deux reports, le couple Bourgeon-Makhlouf est devant la cour d'assises du Rhône, à Lyon. Quatrième procès. Les accusés restent sur leur position. 7 ans après la mort de Fiona, ils ne savent toujours pas où elle repose. Quelque part dans une forêt qui serait en Auvergne. Les jurés voient en Cécile Bourgeon la principale responsable de cette tragédie. Les rôles sont inversés. Elle est cette fois condamnée à 20 ans de prison, 18 pour Berkane Makhlouf. L'ancien compagnon et père de Fiona, Nicolas Chafoulet, se dit content que Cécile Bourgeon soit davantage condamnée que son compagnon. « Il y a dans ce verdict un message », déclare-t-il. Et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, c'est Maître Charles Fribourg, avocat à Clermont-Ferrand. Et vous êtes évidemment l'avocat de Nicolas Chafoulet, l'ancien compagnon de Cécile Bourgeon. Vous y êtes à ce procès. Comment expliquer ces peines qui sont complètement inverses à ce qu'on donnait au début? Désormais, c'est la mère qui est la plus exposée et la plus condamnée, surtout.
Parce qu'il a une part de responsabilité moindre. Le deus ex machina de ce dossier, c'est quand même Cécile Bourgeon, et que lui, ça a été clé point. Certes, c'est quand même 18 ans, c'est pas rien, mais son rôle était moins prédominant que Cécile Bourgeon. C'est un symbole.
C'est un symbole, mais à ce procès, ça se retourne contre Cécile Bourgeon.
Ouais, c'est ce qui n'avait pas été le cas. C'était compliqué pour nous. Avant, il y avait un pacte entre Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf. On s'accusait sans s'accuser, on savait pas bien. Et donc, ce qu'on a réussi à faire, avec mes confrères Jean-François Canis, Anne-Laure Lebert, et puis tous les avocats d'associations d'enfance maltraitée, qui nous ont aidés dans le cadre de ce dossier, faut quand même insister là-dessus, c'est de rappeler l'intime conviction, quoi. Et vous faites une semaine avec Cécile Bourgeon, vous lisez le dossier, vous avez l'intime conviction qu'elle est coupable.
Alors oui, c'est une intime conviction des avocats. Évidemment, de l'autre côté, du côté de Cécile Bourgeon, la configuration est tout autre. Maître Charles Fribourg, je rappelle que vous êtes l'avocat de Nicolas Chafoulet, c'est l'ancien compagnon de Cécile Bourgeon. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé juste avant la disparition de Fiona? C'est 6 mois dans cette maison de Clermont-Ferrand.
Alors on nous explique, on a des passages comme quoi... Ils étaient colériques, et puis ça tapait pour un rien, pour un non. Il n'y a pas de raison. On a un passage à l'instruction où quand même Cécile Bourgeon dit que Fiona était un punching ball. On a un passage où elle explique qu'elle l'a maquillée pour qu'elle soit mieux présentable devant son bourreau. On a des passages terribles sur ce qu'a dû subir Fiona. On a le voisinage aussi qui disait qu'à partir du moment où Nicolas Chafoulet ne s'occupait plus de sa fille, elle s'habillait mal, elle loupait la classe. En tout cas, Fiona n'a pas été aimée et plutôt repoussée ces 4 à 6 derniers mois.
Vincent Vantinghem, on vous retrouve dans cette heure du crime avec votre livre « Les défendre tous », qui est sorti aux éditions du Rocher. Alors, il y a plusieurs entretiens, il y a plusieurs affaires surtout qui sont exposées avec des entretiens avec des avocats. Et il y a évidemment dans votre livre cette affaire Cécile Bourgeon. Le masque de cette mère de famille est tombé. Désormais, elle n'est plus du tout une victime. Hein. Là, il y a plus. Tout est tombé pendant ces procès. On a vu son vrai visage.
Exactement. Il faut bien comprendre qu'il y a eu 4 procès. C'est-à-dire, on est sur 11 semaines d'audience pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à la petite Fiona. Et l'explication qui est donnée au départ par Cécile Bourgeon, c'est-à-dire même lors de sa garde à vue. Oui, j'ai voulu cacher la vérité parce que j'étais moi-même victime des coups de Berkat Makhlouf et j'avais moi-même peur pour ma vie. En l'ayant vu à toutes ces audiences, à tous ces procès, les jurés se sont bien rendus compte que, en fait, c'était plutôt elle, la femme forte, entre guillemets, du couple, et c'était elle qui faisait subir à tout son entourage ces violences, qu'elles soient verbales, de comportement ou même physiques, puisqu'elle a été accusée elle-même d'avoir porté des coups, ce qu'elle a toujours contesté. Mais c'est vrai que son vrai visage a éclaté à la fin de toutes ces audiences, alors qu'au départ, on était sur qui est vraiment Cécile Bourgeon.
Il n'y a pas beaucoup, enfin j'ai pas lu, peut-être vous allez me contredire, mais il n'y a pas beaucoup de larmes pour la petite fille, pour Fiona, au cours de ces procès. Parfois il y a de l'émotion, on n'aurait pas dû, etc. On a mal fait, on s'excuse, voilà, je sais pas, je lis pas ça.
Non, il y a quasiment aucun moment de compassion, d'empathie pour sa fille. C'est-à-dire que Cécile Bourgeon, notamment lors du premier procès, elle explique qu'elle n'attend qu'une chose, c'est de sortir de prison pour prendre sa voiture, d'arpenter les routes d'Auvergne pour retrouver l'endroit où elle l'a enterré pour lui donner une sépulture digne. Ça va être le seul moment de compassion qu'elle va avoir pour sa fille. Et en même temps, on l'a vu à l'issue des méandres de la procédure, elle va sortir à un moment donné de détention. Est-ce qu'elle va vraiment prendre sa voiture pour la chercher ? Pas du tout. Elle va rester à Perpignan et elle ne va pas faire en sorte de retrouver le corps de sa fille pour l'enterrer. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de larmes, en dépit du fait qu'elle dise « Moi, je perds mon temps en prison, je veux d'autres enfants ». Il y a les experts qui se sont penchés sur son cas et qui ont estimé qu'en fait, elle avait voulu un enfant comme on voudrait un sac à main ou une glace quand il fait chaud l'été et qu'on passe devant le glacier.
Ça arrive dans la vie.
Un accessoire.
C'est un accessoire, et effectivement, cet accessoire, on s'en débarrasse aussi, peut-être dans une forêt ou peut-être ailleurs, puisqu'on ne sait toujours pas aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, où est le corps de Fiona. On ne l'a jamais retrouvé. Pas de 5e procès. Cécile Bourgeon demande à sortir de prison. Cécile Bourgeon, 36 ans, incarcérée depuis plus de 10 ans, se dit déterminée à obtenir sa libération conditionnelle. Elle dit vouloir s'occuper de son dernier enfant, une fille aujourd'hui âgée de 7 ans. Ses avocats ont l'espoir de la voir quitter bientôt sa prison de Lyon-Corbat. 11 ans après la mort de la petite Fiona, la fillette repose toujours dans une sépulture anonyme que personne n'a jamais découvert.
Elle en a des responsabilités. Elle a reconnu des erreurs qui sont dramatiques, le mensonge. Elle a reconnu qu'elle n'avait pas su protéger sa fille. En revanche, elle a toujours dit, depuis le départ, depuis le jour de sa garde à vue, qu'elle n'avait strictement rien à voir avec le décès de Fiona.
Ça, c'est la voix de maître Renaud Portejoie, avocat avec son père, maître Gilles-Jean Portejoie, de Cécile Bourgeon. On retrouve dans cette heure du crime Vincent Vantinghem, grand reporter à BFM TV, auteur du livre « Les défendre tous », publié aux éditions du Rocher. Ça vient de sortir, c'est un excellent bouquin sur plusieurs affaires criminelles avec des interviews des acteurs et des avocats qui font ces affaires. Vincent Vantinghem, évidemment, vous avez vu maître Gilles-Jean Portejoie et maître Renaud Portejoie pour faire cet ouvrage, notamment pour le chapitre que vous consacrez à Cécile Bourgeon. Eux, ils n'ont jamais réussi à obtenir qu'elle progresse un petit peu, Cécile Bourgeon, qu'elle soit finalement dans le véritable aveu, j'ai envie de dire, entre guillemets.
Non, et ils l'ont secouée, entre guillemets, on pourrait dire ça, parce que leur stratégie de défense, dès le départ, c'est de dire « il faut qu'on retrouve le corps de la fillette, ça va nous aider à montrer que ce n'est pas vous, Cécile Bourgeon, qui avez porté les coups à la petite Fiona, donc ils vont tenter de la secouer, mais ils ne vont jamais y parvenir, finalement. » Et c'est vrai que c'est une cliente qui est est un peu compliquée parce qu'elle va se murer dans sa consommation de drogue, les violences qu'elle dit avoir subies de la part de Berkane Makhlouf, et elle ne va pas en dire plus. Et elle ne montre finalement, en dépit des déclarations qu'elle a pu faire aux enquêteurs, que très peu d'attachement à la petite Fiona. Et donc on se demande toujours, est-ce qu'elle veut vraiment la vérité? Est-ce qu'elle veut vraiment la retrouver? Ou est-ce qu'elle veut tout simplement passer à autre chose, sortir de prison?
En tout cas, elle veut sortir de prison, hein, Cécile Bourgeon. Elle n'arrête pas de le répéter. Alors Vincent Vandinghem, c'est pas si simple de sortir aussi vite de prison.
Non, c'est pas si simple, mais il s'avère que concernant Cécile Bourgeon, il y a eu plusieurs procès avec différentes peines qui ont été prononcées. Il y a eu d'abord la peine en première instance de 5 ans de détention. Évidemment, il y a l'espoir pour elle de sortir de prison, de faire autre chose. Ses avocats qui se raccrochent à ça, mais aujourd'hui, elle est frappée d'une condamnation, d'une peine de 20 ans de réclusion. Les faits remontent à 2013. Elle a passé beaucoup d'années en détention provisoire. Et puis surtout, il va falloir avoir un projet de réinsertion derrière.
Les psys vont devoir s'interroger. Enfin, il y a beaucoup de choses.
Il y a énormément d'étapes à franchir avant d'obtenir peut-être ici une libération conditionnelle ou un aménagement de peine avant une sortie à la fin de sa peine.
Charles Pribourg, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, avocat à Clermont-Ferrand, et vous êtes l'avocat de Nicolas Chafoulet. Nicolas Chafoulet, c'était le premier compagnon de Cécile Bourgeon et le papa des deux petites filles, et dont Fiona. Alors il y a cette demande de sortie, ça fait beaucoup parler, parce que Cécile Bourgeon, d'un seul coup, évidemment, on lève l'oreille. Vous allez vous y opposer à cette demande?
Alors, on nous demande notre avis dans le cas de... En tout cas, on ne nous a pas encore demandé notre avis, donc la demande ne doit pas être prochaine. J'ai pas eu de retour de la part du juge de l'application des peines qui me demandait un avis sur une éventuelle libération de Cécile Bourgeon. Donc, ça m'a l'air d'être plus une annonce qu'une réalité. Alors, il y a un moment où elle sortira. Bon, ben, on fera valoir ce qu'on en pense. C'est pas une mère. Et on est plusieurs à le penser. 4 enfants, une fille qu'elle ne voit plus. Son fils, Bilal, je pense pas non plus qu'elle soit en relation assidue avec celui-ci. Et puis, la dernière, Majouba, qui a été placée immédiatement après la naissance.
Condamnée à 20 ans, Cécile Bourgeon, elle n'a pas payé sa dette à la société, selon vous?
20 ans, parce qu'on n'a pas le corps. Si on avait eu le corps, je pense qu'on serait allé monter, beaucoup plus. Et le fait de ne pas retrouver le corps lui a permis de ne pas avoir plus. Le maxi, vous savez, pour Nicolas Chafoulet, c'est qu'elle soit plus en état, en mesure de faire des enfants et de faire du mal à des enfants. Donc, voilà, la peine, elle est perpétuelle pour Nicolas Chafoulet. On sait qu'elle ressortira, c'est la loi. Elle aura fait sa peine, comme on dit. Ça sera pas par enchantement, et Nicolas Chafoulet sera vigilant vis-à-vis de sa fille pour qu'elle soit bien protégée.
Vincent Vandinghem, c'est un procès, des procès, j'ai envie de dire, il y en a eu 4 sans fin, et puis c'est une histoire sans fin, parce que évidemment, on n'a pas d'explication.
Non, on n'a pas d'explication, et on peut se demander légitimement si on en aura une un jour. Parce que c'est vrai qu'on se dit, après autant de temps, après autant de semaines de procès, de questions posées, de théories mises en avant, est-ce que finalement on aura le fin mot sur cette histoire avec ces deux personnalités, Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, qui sont très compliquées? Effectivement, on n'a pas d'explication franche, et c'est sans doute la raison pour laquelle Cécile Bourgeon aussi, aujourd'hui, elle tend encore l'opinion publique, parce que tous ces gens qui ont participé aux battues, qui ont cherché le corps de la petite, n'ont pas compris qu'elle avait menti et ne comprennent pas aujourd'hui qu'elle ne dise pas la vérité. Elle a trahi la compassion des gens, et aujourd'hui ils attendent une explication qui n'est toujours pas arrivée.
Charles Fribourg, je termine cette émission avec vous. Nicolas Chafoulet, votre client, le papa de Fiona, est-ce qu'il a toujours espoir aujourd'hui de retrouver le corps de sa fille?
Non. Il espère, oui, il a espéré. Je pense que maintenant il a compris que vraisemblablement Fiona est morte le jeudi, qu'elle est morte sous les coups des deux et qu'elle a été jetée, je pense, dans une poubelle, quoi, et qu'on la retrouvera pas parce qu'elle est à Puyon depuis trop longtemps, qui est la déchetterie de la région. Et que malheureusement, c'est cette histoire dramatique s'est terminée de cette manière.
Merci infiniment, maître Charles Fribourg et Vincent Vandinghem, d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, réalisation Jonathan Griveaux.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.